L'ordre du jour assez chargé aujourd'hui, 40 rapports. Donc, je vous propose, on prendra évidemment tout le temps qu'il faut pour les débats, mais je vous propose de mener ce conseil à un rythme assez élevé et notamment de ne pas vous faire de compte rendu exhaustif des différents rapports d'activité que vous avez eu tout loisir de lire complètement au cours de la semaine, j'imagine. Et donc, on va essayer quand même sur certaines parties de gagner un petit peu de temps. En prenant le temps, évidemment, quand il y aura débat, d'aller jusqu'au bout des débats, bien évidemment. Alors, je vous propose de passer immédiatement à la feuille de présence et à l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Olivier Bonduel a donné pouvoir à monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Marie-France Bagard. Monsieur Marc Lerouzic est absent. Madame Christine Lamandé a donné un pouvoir à madame Christine Desjardins. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan a donné pouvoir à madame Marie-France Bagard. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bietri. Mais pas en retard. C'est marqué monsieur Bietri présent, mais en retard. Non, il n'est pas en retard. Il est à l'heure. Très bien, monsieur Bietri. Je vous félicite. Madame Marie Van Belleuil. Monsieur Philippe Audot est absent. Pouvoir à monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudet. Madame Christine Desjardins. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit. Ah, donc je ne pourrais pas t'accabler du titre de secrétaire de séance, alors. Bon. Non, en général, c'est la Benjamine qui s'y colle. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Caride de Déveat. Notée absente, mais elle est bien là. Monsieur Hervé Le Donnant, pouvoir à Olivier Lepic. Madame Monique Thomas devrait arriver. Madame Armel Moreau. Monsieur Jean-Luc Servet. Madame Nadine Rouet. Monsieur Pascal Lejon. Monsieur Loïc Houdois. Madame Sylvie Robineau. Présent. Monsieur Paul Chapelle. Présent. Monsieur Olivier Lepic présent. Nous avons donc largement le quorum pour délibérer. Et puisque la Benjamine nous fait faux bond à partir de 19h, oui. Madame Le Pennec, le maire de Saint-Colomban, vous acceptez la charge de secrétaire de séance? Je vous remercie. Et je passe immédiatement la petite d'appel. Et on commence. Voilà, bah madame Thomas, j'avais dit qu'elle allait arriver, elle arrive. Parfait, on commence par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mars 2018. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce compte-rendu? Il n'y a pas de procès-verbal? Ah. Il n'y a pas de procès-verbal. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de procès-verbal puisqu'on n'a pas eu le temps. Excusez-moi. Merci, monsieur de Ripper. On le fera probablement lors du prochain conseil. Compte rendu des décisions du maire. Là, il y en a une, la numéro 20. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Pas de questions? Parfait. Monsieur Lejean, je vous passe donc la parole pour le rapport numéro 4, le budget principal et budget annexe du musée, affectation de résultats 2017.
Bonsoir tout le monde. Donc, on va... voir que plusieurs sujets en même temps, hein, comme d'habitude, ça va être le PowerPoint qui va arriver. Donc le 4, le 5, le 6, le rapport d'activité du musée de la préhistoire, on le verra à part, et on verra le point 8 en même temps. Je vous laisse, ça va venir. Oh, c'est pas grave, je vais me déplacer.
Ah. Les grands artistes peuvent opérer sans leur PowerPoint, monsieur Lejean.
Enfin, vous l'avez de toute façon, je vous l'ai mis en papier, vous l'avez devant vous en papier. Donc, décidément, ça fait deux fois de suite, là. La technologie. Passe-le par en dessous, ça va être plus simple. Hop, on va essayer de s'y mettre. Donc je vous rappelle que le budget primitif reprend les grandes lignes dans les grandes lignes que nous avons vues il y a 15 jours au niveau du DOB. Puisque merci. Alors plus mal. Est-ce que ça va marcher? C'est bon. Ça va être bon. Il faut allumer l'appareil.
Mais si ça tombe en pleine action.
Heureusement que j'avais dit que vous l'avez traumatisé. Si ça clignote, ça va venir, ça va venir.
Ah, ça y est.
Ouais. Non, non, il chauffe. Et avant ? Non, non, il n'y a que la billetterie de l'office qui est en grève. Donc, conseil municipal du 6 avril 2018. Donc, on va commencer par l'affectation du résultat de 2017, avant de voir le BP. Je vous rappelle l'excédent de fonctionnement en 2017, qui est de 3 964 000 euros. Ou 3 964 000 pardon, euros. Excusez-moi, c'est 3 964 euros. Donc, la répartition avec 2 581 000 euros pour l'excédent de fonctionnement, 995 000 qui est l'excédent de fonctionnement antérieur, et 388 000 que j'ai voulu dissocier pour que ce soit bien clair, qui est l'excédent de fonctionnement du SIAT, donc qui va être aujourd'hui reversé cette année, donc qui était resté dans l'excédent de fonctionnement de N-1. L'affectation du résultat, donc nous proposons d'affecter 2 581 000 en section d'investissement et de garder 1 383 000 en section fonctionnement, entre autres pour le SIAT. Dans 1 383 000, vous retrouvez 995 plus 388 000 du SIAT. Nous allons passer au vote de l'affectation du résultat. Qui c'est qui est contre ? Qui c'est qui s'abstient ? Je vous remercie. Budget annexe du musée, donc affectation du résultat 2017 du budget annexe du musée. Donc c'est le résultat de fonctionnement 2017, 0. Résultat de fonctionnement antérieur, 0. Résultat de fonctionnement de clôture 2017, 0. Donc affectation du résultat, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas d'excédent à affecter. On vote l'affectation du résultat budget annexe du musée. Qui c'est qui est contre ? Qui c'est qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Commune de Carnac, les taux d'imposition communaux. Comme nous vous l'avons expliqué il y a 15 jours, nous vous proposons pour l'année 2017 de baisser le taux de la taxe d'habitation de 10,80 à 10,45 et en même temps de vous refaire la proposition pour les années suivantes. Donc le nouveau taux de la taxe d'habitation passera à 10,45, le taux de foncier bâti à 14,89 inchangé et le taux du foncier non bâti à 22,59 inchangé. Qui c'est qui est contre ?
Il y a peut-être des questions de M. De Ripper.
Oui, je voulais dire que cette baisse a été tout à fait homéopathique et qu'elle allait générer un cadeau fiscal qui va être inférieur à 100 000 euros. Que ce cadeau fiscal, il faut le rapprocher des millions d'euros qui vont être ponctionnés suite à la hausse d'impôts de 2014. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une goutte d'eau. Le deuxième point, c'est que la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est en sursis. On sait qu'il va être supprimé en 2020. Donc, quel est l'intérêt pour le contribuable de baisser un impôt qui est destiné à être supprimé ? Je ne comprends pas bien. Si vraiment on veut donner un signal fort de baisse de la fiscalité, je pense que c'est sur la taxe foncière qu'il aurait fallu le faire. Et il aurait fallu le faire d'une manière beaucoup plus importante, c'est-à-dire d'au moins un point. Le dernier point, c'est que quand est-ce que le contribuable va s'apercevoir de cette baisse de la taxe d'habitation ? Sur sa feuille d'imposition d'octobre 2018, c'est-à-dire en gros un an avant les élections et municipales. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre les deux. Et dernier point, ce matin a été votée par ACTA une hausse de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que est-ce qu'il va voir le contribuable sur sa feuille d'imposition d'octobre 2018, il va voir que la baisse communale, elle est totalement supprimée par la hausse intercommunale. Et d'ailleurs, monsieur le maire, vous étiez présent et vous n'êtes pas opposé à cette hausse de la taxe d'habitation, vous êtes simplement abstenu.
Pardon, moi je voulais aussi dire, je voterai pour. Je voterai pour, bien entendu. Et moi, je pense aussi qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de le faire sur la taxe foncière
Hein, parce que ça, la taxe foncière sur les propriétés bâties est quand même très importante à Carnac compte tenu des bases, et je pense qu'il aurait été plus judicieux de le faire sur la taxe foncière. Voilà, des propriétés bâties.
Alors, parfait. Parfait. Simplement, pour répondre, effectivement, faut,
madame, je voterai pour, quand même.
On n'est pas encore au vote. Je comprends tout à fait, madame Thomas.
J'avais prévenu, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait en traite, j'avais prévenu monsieur Le Pic que je le dirais. Donc, je l'ai fait.
Ça y est, je peux parler ? Voilà. Merci. Je confirme, madame Thomas m'avait prévenu à l'avance. Mais là, évidemment, la prochaine étape, ce sera de baisser la taxe foncière. Je pense que d'ici quelques années, il ne faut pas sauter à la conclusion. Notre objectif est de continuer à faire baisser la fiscalité de la commune. Effectivement, je me suis également abstenu en conseil communautaire ce matin pour cette hausse de la fiscalité de l'intercommunalité, sur laquelle je pense qu'elle est trop peu ou pas assez, compte tenu des investissements à faire. Quant aux considérations électoralistes, je vous rappelle qu'on s'est engagé à les baisser 3 années de suite et que si on avait voulu vraiment faire un coup électoral, on l'aurait fait immédiatement dès cette année pour éventuellement satisfaire le futur électeur. C'est pas du tout notre propos et la preuve, c'est qu'on le fait en 3 ans, qu'on s'engage, qu'on l'écrit et que donc on va le faire et on fera la taxe foncière dès qu'on pourra, dès qu'on continuera à générer des autofinancements et des ratios qu'on arrive à conserver. C'est pas très facile, hein. Je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, vous aviez dit que c'était impossible. Je crois que je suis allé rechercher dans un certain nombre des publications de l'opposition et vous aviez affirmé que tenir ces ratios était totalement impossible. Je le rappelle, totalement impossible. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les tient, donc c'est pas facile, hein, c'est clair. Donc c'est aussi normal de rendre un petit peu aux contribuables carnacois ce qu'il, quand c'est possible, une partie de la pression fiscale. L'autre point, c'est que je parierais pas complètement sur la disparition de cette taxe d'habitation. Vous n'êtes pas sans savoir, et c'est relayé par la presse ces derniers temps, que Bercy se creuse la tête pour trouver les 20 milliards que vont représenter l'exonération de cette taxe, que de toute façon, à partir du moment où l'État a annoncé une compensation à l'euro près, il faudra bien qu'un contribuable, quel qu'il soit, un particulier, une entreprise ou un consommateur, puisqu'il y a différentes pistes qui sont explorées, eh bien, compense ces 20 milliards pour pouvoir rembourser les communes. Donc, encore une fois, on avisera en fonction des décisions qui seront prises par l'État dans le domaine de la fiscalité. Mais encore une fois, à partir du moment où notre programme, et on ne va pas refaire le débat, est financé, je pense que c'est important de montrer à la fois un signe tangible, mais également symbolique sur le fait qu'on peut baisser la fiscalité quand c'est possible.
Simple remarque pour dire que moi aussi j'ai relu mes propos, j'ai pas dit que c'était totalement impossible, j'ai dit que ça allait être difficile.
Non, j'ai revu dans un petit papier bleu que c'était marqué totalement impossible. Mais bon, on va pas débattre sur le sujet. Hein. Voilà, exactement, on va pas polémiquer.
Donc, juste pour finir, c'est les gouttes d'eau qui font les rivières, monsieur de Ripper. Donc je vais vous proposer de passer au vote des taux d'imposition communaux, donc pour la taxe d'habitation à 10,45, la taxe foncière bâtie à 14,89 et la taxe foncière non bâtie à 22,59. Qui c'est qui s'abstient ? Voilà. Tu n'as pas de vote contre ?
Parfait. Le rapport est adopté. Je vous remercie.
Donc nous allons passer au budget primitif de la commune. Et le budget primitif, le budget annexe du musée. Donc juste pour vous rappeler les fondamentaux de notre mandat que vous avez évoqué tout à l'heure, donc les 6 points, puisqu'on a rajouté un point cette année. Un petit rappel de l'excédent global de fonctionnement et d'investissement sur les différentes années, de 2012 à 2017. Un petit point sur le budget primitif global pour l'année 2019. Donc vous remarquerez qu'il approche les 29 millions d'euros. Donc il est en forte progression due au budget investissement puisqu'il représente 14 326 000 euros qui se décompose dans les dépenses de fonctionnement. Vous avez les différents chapitres. donc sur les charges à caractère général, donc comparaison par rapport au BP 2017, et on compare toujours un BP au BP, donc avec une évolution de 7,47%, les charges de personnel à 2,65, même si effectivement dans le CA sont beaucoup moins fortes, atténuation de produits moins 5,04, c'est surtout dû aujourd'hui à la participation au redressement des finances publiques, puisque pour 2018, il n'y en a plus. Donc celle de 2017 est issue essentiellement le FNGIR. Les dépenses imprévues pour 559 000 qui sont en baisse de 4,93%. Les autres charges et de gestion courante à plus 6,27%. Les charges financières qui sont à 194 000 qui sont en baisse de 11%, qui est tout simplement dû que nous remboursons plus de capital et moins d'intérêts, ce qui nous fait un total de 11 220 000 pour 2017 et 12 009 000 pour 2018. Les opérations d'ordre entre sections, les amortissements, donc 630 en 2017, 765 plus 21%, effectivement on amortit, comme on a fait des investissements, on amortit un peu plus, et le virement de la section d'investissement prévisionnel de 2018, je rappelle bien prévisionnel, l'année dernière était de 2 365, cette année on prévoit 2 46, qui est en baisse de 13,49%. Et je répète bien qu'il est prévisionnel, puisque vous avez vu que le virement réel était supérieur en 2017. Vous avez un autre graphe qui représente la même chose, hein, en graphe. Je rappelle, dans le budget, la dotation, la DGF. Donc la DGF dans laquelle la commune de Carnac est passée de 2010 à 2018 avec une perte de 4 585 859 euros. Et si on prend un point de référence en 2013, de 3 301 707 euros. On est passé de 1 976 000 euros en 2010 à 900 000 euros environ pour 2018, c'est-à-dire divisé par 2,2. Le petit crobar qui vous reprend la DGF présentée autrement avec en rouge la contribution au désendettement de l'État. Je vous rappelle que ce qui est écrit en rouge dans l'exemple de 2014 est déduit directement en bleu en 2015. Et on a rebelote moins 190 000 euros pour le désendettement de l'État en 2015, qui lui vient en moins dans le bleu en 2016, et on nous rajoute moins 204 et ainsi de suite. Pour 2018, effectivement, ça s'arrête. La section d'investissement, vous avez donc les dépenses d'investissement, dotation, fonds divers et réserves. Pour la dernière 314 000 cette année, rien du tout. Les remboursements en capital des emprunts pour 592-577. Effectivement, en 2018, nous allons avoir un emprunt qui arrive à échéance, d'où la baisse. Sur les subventions d'équipement versées, 233-445. Les immobilisations corporelles, qui fait plus 90,99%, pour en revenir derrière, puisqu'il y a des opérations spécifiques. Sur l'immobilisation, pardon, les immobilisations incorporelles de 241 200 000 euros, moins 17,01. Les immobilisations corporelles passent de 4 594 à 5 208. Et les immobilisations en cours de 4 843 à 6 771. Ces deux lignes représentent les investissements que vous avez vus en détail dans le DOP, puisque dans le DOP, il y avait trois tableaux qui reprenaient en détail les investissements. Sur les dépenses imprévues, 115, alors ces dépenses imprévues, c'est le déficit tout simplement du SIAT, donc qui est au même niveau que l'année dernière, et donc qui va se purger cette année. Les opérations d'ordre entre sections 253 à 761, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le leg de Mme Kerzéro. Et l'opération, donc ça en liquidité, l'opération d'ordre patrimonial, c'est la valorisation de la maison Kerzéro. Ce qui représente un budget de 14 326 000 euros. Les dépenses d'investissement sur un camembert, les voiries réseau pour 3 779 000, la sécurité pour 582 000 euros, l'aménagement urbain pour 1 5 million, le mobilier matériel pour 462 000 euros, les bâtiments pour 2 578 000 euros, terrain et jardin cimetière pour 3 591 000, communication études pour 355 000, et les opérations financières pour 1 479 000. On va retrouver le graphe dans les recettes. Donc nos recettes en investissement, les dotations fonds divers réserves pour 515 000 €, les affectations d'excédent de fonctionnement de N-1 pour 2 581 000 €, les subventions d'investissement reçues pour 439 000 €, les emprunts et dettes assimilées, vous avez aujourd'hui 3 840 000 € en prévision, on reviendra dessus tout à l'heure si vous voulez, les virements prévus de la section fonctionnement, ce qu'on a vu tout à l'heure, 2 046 000, les produits de cession d'immobilisation pour 533 000 €, l'opération d'ordre entre sections pour 765 000 €, l'opération d'ordre patrimonial de 150 000 € que vous avez retrouvé tout à l'heure en dépenses, vous le retrouvez en recettes, et l'excédent d'investissement reporté pour 3 358 000 €, ce qui nous fait 14 326 000 €, plus 25,26%. Vous avez le même graphe ici. Donc voilà pour la partie des dépenses en fonctionnement, des recettes en fonctionnement, des dépenses en investissement et des recettes en investissement, qui nous ramène au budget global de à peu près 29 millions. La dette. Vous avez le graphe de la dette en cours, donc qui s'établira à fin 2018 à 4 345 000 €, contre 4 920 000 € en 2017. Hors nouveaux emprunts, bien sûr, puisque ça, c'est les emprunts existants.
Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce budget primitif 2018 ? Monsieur de Ripper.
Oui, je constate quand même que les charges à caractère général augmentent assez fortement entre 2017 et 2018, de même que les charges de personnel. Et même si on ne doit pas le faire, je le fais quand même, si on compare au réalisé 2017, on est à plus 15 et à plus 10. C'est quand même assez conséquent. Donc je ne pense pas que ce budget s'inscrive dans une perspective d'économie ou de baisse des dépenses publiques. Par ailleurs, j'avais une question à vous poser concernant le SIAC, le règlement du solde du SIAC et du leg CARZERO. Donc on va le décaisser en 2018, puisque ça apparaît dans les dépenses de fonctionnement en dépenses imprévues et en charges exceptionnelles. Ça veut dire qu'on les avait intégrés, dans les budgets précédents, c'est-à-dire en 2016 et 2017.
Non, 2017.
En 2017.
En 2017, ils étaient. Normalement, le dénouement aurait dû être fait en 2017 pour des raisons même techniques. Ça n'a pas été fait, donc ça va être fait là en début 2018.
Même pour le leg CARZERO.
Alors pour le leg CARZERO.
Parce qu'il me semble qu'il était, intégré en 2016. Le
alors il y avait CARZERO. Une partie qui était intégrée en 2017, qui était intégrée dedans, puisque c'était la partie qui est des liquidités qu'on avait reçu tout de suite, ouais. On est d'accord. Après, il y a eu les ventes de différentes choses qui sont revenues, ou le déblocage des comptes d'assurance vie, pour ne pas dire de bêtises, qui est arrivé. Entre-temps, on a eu un petit problème d'ordre technique, je vais dire, si je peux dire ça comme ça, mais M. Géretti, je vais vous laisser la parole, parce que là, vous êtes nettement plus performant que moi.
Sur le leg CARZERO, je vais vous donner l'explication. Donc, en fait, à la base, vous avez encaissé en section d'investissement le leg CARZERO, puisque c'était tout à fait naturel, ça a été payé en section d'investissement. Sauf qu'il est question maintenant de le reverser au foyer logement et que les schémas comptables ne permettent pas de le payer sur le compte qui a servi en recette à l'encaisser en section d'investissement. Donc on a trouvé au bout d'un certain temps de recherche, et je ne vous cache pas que c'est même remonté une cellule de conseil qui se trouve à Paris, qui m'a donné la méthode, c'est-à-dire qu'en fait, on a transféré cette recette en compte de résultat en passant une dépense, en section d'investissement qui compense cette recette que vous aviez eue, il y a donc en 2016 et 2017, en la transférant par opération d'ordre en section de fonctionnement à un compte donc de classe 7, 777.
Je crois que pour les legs, c'est le seul cas de figure où on peut passer de l'investissement au fonctionnement.
Voilà. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Il doit y avoir 2-3 schémas qui permettent de le faire pour les legs. Donc, pour finir, la recette actuellement va se retrouver en section de fonctionnement, ce qui est ce qu'il nous faut, et les schémas permettent bien de le payer au 67. C'est pour ça que ça vous fait augmenter, vous l'aviez bien vu, la masse au compte 67, et donc de la section de fonctionnement d'autant. ça fait 500 000 euros, en gros, hein, qui s'y situe. Donc, une augmentation sensible du budget de fonctionnement vient de là. Mais ce sont des opérations d'ordre. En fait, on a transféré un excédent qui se trouvait en section d'investissement en section de fonctionnement pour l'apurer maintenant. Voilà. Alors ça, c'est le côté LEC-CARZERO. En ce qui concerne, donc, un mot sur le SIAC. Le SIAC, vous aviez bien compris que vous aviez récupéré les excédents, etc. Et donc là, je vais, dès que la délibération est prise, donc dès lundi, transférer tout ça sur ACTA. Voilà.
Ça veut dire que les résultats, les soldes, qui étaient des soldes positifs, étaient intégrés dans les budgets précédents.
Tout à fait.
Donc étaient intégrés dans les 7 millions de résultats qu'on a vu au dernier conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fait, ça a quand même gonflé d'une manière assez artificielle le résultat qui a été déclaré en 2017.
Artificiel, c'est vous qui dites, mais enfin, ça a gonflé les résultats.
Ça a gonflé le résultat. C'est-à-dire que le résultat, en fait, le résultat réel, il est plus proche des 6 millions que des 7 millions, en fait.
Vous l'avez bien compris, puisqu'en fait, LEC-CARZERO fait à lui seul déjà 500 000 euros.
Et en ce qui concerne le SIAC, on a un solde qui est de quel ordre? Parce qu'il y avait un déficit d'investissement.
Il y a 114, vous avez vu tout à l'heure, 115 000 de déficit pour 388. Donc vous faites
oui, mais on a encaissé aussi toute la trésorerie.
Non. C'est autre chose.
Attendez. Là, vous mélangez deux choses. Là, on a un excédent de fonctionnement de 388 000 euros pour le SIAC et on a un déficit d'investissement de 115 000. Vous faites le delta, et effectivement, c'est ce qui va être transféré à ACTA. Mmh. C'est le delta qui va être transféré par les 388. Il y a deux choses. Il y a la trésorerie qui est à la hauteur de un peu plus de 270 000 euros, qui va être virée à ACTA. Par contre, pour rentrer dans le budget d'ACTA, il fallait rentrer l'excédent de fonctionnement, qui va être pour eux une recette, et le déficit d'investissement, en termes comptables.
Oui.
D'accord. Donc c'est deux choses.
Mais le SIAC disposait aussi d'une trésorerie.
Mais si vous permettez, là je peux répondre parce que la trésorerie c'est plutôt mon affaire. Je puis dire, vous travaillez sur le budgétaire, moi sur la trésorerie. Donc la trésorerie, elle est diminuée actuellement des créances qui sont pas rentrées et des dettes qui sont pas payées. Il y en avait quand même un petit peu, mais c'est pour ça qu'il y a un delta entre l'excédent réel compensé entre le fonctionnement, l'investissement que vous allez devoir donc reverser et la trésorerie qui s'y rattache. Parce que il y a des sommes qui ont été qui restaient à recouvrer il y a 4 ans, pour lesquelles on a pu récupérer un peu d'argent, je ne citerai pas des noms, mais il y a des gros morceaux qui sont quand même arrivés. Et par contre, il y avait un débit d'office d'emprunt d'un montant assez conséquent, hein, de l'ordre de 70 000 euros, qui n'était pas régularisé, qui budgétairement devra l'être par ACTA. On attendait ça depuis longtemps. Voilà. Donc votre trésorerie, elle n'est pas à l'identique de l'excédent global que vous aviez sur ce budget.
Et
c'est déjà l'explication.
Et pour aller un peu plus loin sur le SIAT, les comptes du SIAT que on vous soumet au vote ne sont pas les comptes réels qui auraient dû être affichés à fin 2013. Puisqu'il manquait 800 000 euros de subventions accordées d'investissements faits non décaissés, qu'a fait ACTA. 400 000 euros de titres non émis, qu'a fait ACTA par la suite. Donc si vous voulez, ACTA a déjà récupéré 80% des excédents réels du SIAT. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait quand même un bureau avec un président, un trésorier, un secrétaire, ainsi de suite. Moi, j'y étais pas. Je me suis tapé le dossier avec M. Géretti et c'était pas simple.
On va peut-être faire le bas du SIAC à mon SIAC. Il y a un rapport sur le SIAC.
Tout à fait. On en parlera tout à l'heure.
Une dernière question concernant EADM. Enfin, les 3,4 millions qui apparaissent dans les opérations d'équipement. Ces 3,4 millions vont être financés de quelle manière? Par autofinancement ou par endettement?
Ah ben non, c'est justement, quand vous voyez la ligne emprunt, ça sera financé par un emprunt, puisque je vous rappelle que c'est une opération spécifique, le dénouement n'est pas encore fait, d'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il fallait l'inscrire au budget, comme on l'a fait les dernières d'ailleurs, hein. Et donc, si vous voulez, c'était pas prévu dans notre programme, et effectivement, là, il y aura un financement spécifique. Mais je pense qu'on en débattra dans le futur rapidement, puisqu'on devrait arriver à un dénouement, j'espère, assez rapide. Paul ? Voilà. Mais ça fera...
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Dripper ? Non, c'est tout. Je vous propose de voter, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ce budget primitif 2018 ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Deux abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes pour? C'est le reste, logiquement. Je vous remercie. Le budget donc primitif 2018 est donc adopté. Oui. On passe au point suivant, qui est le rapport d'activité du musée, il me semble.
Oui, Loïc.
Alors, très rapidement, Loïc.
Oui, très brièvement.
Sur les rapports d'activité que tout le monde a lu.
Voilà, le rapport complet vous a été envoyé. Donc effectivement, c'est juste pour revenir sur certains chiffres assez emblématiques de cette année. Donc 283 jours d'ouverture auxquels s'ajoutent 14 jours d'accueil de groupe. Au musée, on a reçu 37 806 visiteurs. C'est 9,5% de plus que l'année précédente. Et surtout, c'est la deuxième meilleure année depuis 18 ans, le record étant encore l'année 2015. 655 animations, dont 6 nouvelles de créées. 28% des visiteurs ont suivi ces animations. Un taux de récollement de 81% sur les 350 000 objets que compte le musée. 3 acquisitions d'œuvres cette année. Autre chiffre, les recettes boutiques qui ont augmenté de 10% grâce à un gros travail de l'équipe justement pour avoir des produits qui plaisent à tous. Et puis dernier chiffre que je voulais vous donner, c'était la journée mégalithique qui a été conçue en fait en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux à destination du public scolaire. On avait accueilli 8 classes en 2016 et là cette année c'est 21 pour l'année 2017. Donc une belle progression également.
Pour ceux qui sont invités, j'imagine que l'ensemble du conseil municipal a dû l'être. Il y a l'inauguration demain de la maison des mégalithes, donc on aura l'occasion d'avoir le préfet, le sous-préfet, le DRAC de Bretagne, et donc il est prévu dans la foulée une petite visite du musée, puisque le DRAC de Bretagne a accepté, puisqu'il y a deux gros projets de musée de France en Bretagne qui se terminent sur l'exercice 2019. A donc accepté que le projet du musée de Carnac soit prioritaire et le prochain grand projet financé par le ministère de la Culture parmi les musées bretons. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse sortir ce projet dans les années qui viennent, parce qu'on a vraiment une vraie fenêtre de tir avec des financements importants. Et le sous-préfet a l'air aussi très motivé par ce projet, puisqu'il a demandé à visiter le musée éventuellement demain. Donc Loïc, désolé, mais si tu pensais avoir ton samedi après-midi de libre, ça ne va pas être possible.
Ce temps-là avec
plaisir. Voilà. Donc pas de vote sur ce rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc le conseil municipal donc prend acte de ce rapport d'activité. Monsieur Lejean, la subvention d'équilibre 2018 et le budget 2018 pour le musée.
Voilà, donc on va le revoir à suivre du budget de la commune. Donc vous avez le petit tableau dans le budget primitif du budget annexe du musée. Donc les charges à caractère général qui sont de 119 en 2017 passent à 122 en 2018, ce qui fait une augmentation de 2,52. Les charges de personnel, 421 000 plus 2,68%. L'atténuation de produits, il n'y a rien. Les autres charges de gestion courante, 4 000 euros. Les charges financières, il n'y en a pas. Les charges exceptionnelles, 1 000 euros. Les opérations d'ordre entre sections, 34 000, on passe à 47 000 euros plus 38,24%. Et le virement à la section d'investissement de 30 000, on passe à 71 000 euros plus 137%. Si on le met en pourcentage, ce qui fait un total de 666 000 euros. Dans les recettes de fonctionnement du musée, vous avez l'atténuation de charges de 32 000, on passe à 34 000. Les produits des services du domaine des ventes, comme l'expliquait Loïc tout de suite, 193 000, on passe à 216 000. Les impôts et taxes, zéro. Les dotations et participations de 27, on passe à 26 000. Les autres produits de gestion courante de 336 000, 376 000. Les produits exceptionnels, 5 000. Les opérations d'ordre entre sections, 9 000 euros. Ce qui nous fait un total de 666 000 euros. En section investissement, on retrouve donc le remboursement du capital des emprunts, zéro, puisqu'il n'y en a pas. Les subventions d'équipement versées, rien du tout. Les immobilisations incorporelles, 30 000 euros pour 34 000 l'année dernière. Les immobilisations corporelles, 49 000 euros pour 65 000 euros. Les immobilisations en cours, 28 000 euros pour 15 000 euros. Les opérations d'ordre entre sections, 9 000 euros. Et le déficit d'investissement reporté, 16 35 000 euros. Ce qui nous fait un total de 151 000 euros. Dans les recettes d'investissement du musée, vous avez une subvention d'investissement reçue, 30 000 euros. Dotation fonds et divers de réserve, On passe à 3 000 euros contre 6 000 euros. Les affectations d'excédent de fonctionnement, zéro, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les subventions d'investissement reçues, on passe à 30 000 euros par rapport à 25 000. Les emprunts et dettes assimilés, zéro. Le virement de la section fonctionnement, 30 000, on passe à 171 000 euros. Les produits de cession d'immobilisation, il n'y a rien. Les opérations d'ordre entre sections, 34 à 47. l'excédent d'investissement reporté, rien, ce qui nous fait un total de 151 000 euros.
Des questions ou des commentaires sur ce budget 2018 du musée ? Pas de questions, pas de commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport suivant. Monsieur Lejean, toujours autorisation de programme et crédit de paiement 2018.
Alors, tout à fait. Lors de la présentation du DOB il y a 15 jours, on vous a présenté le détail des gros travaux engagés sur Carnac et donc on a fait des autorisations de programme dans lesquelles vous avez le détail derrière. Je vous avais proposé 4 à l'époque. Aujourd'hui, on en a 5. Salle multifonction pour des raisons de décalage et d'opérations dans le temps par rapport aux entreprises. Donc vous avez les différents montants qui ont un petit peu évolué par rapport à ce qui avait été inscrit au niveau du DOB. Je rappelle, le DOB, c'est un débat d'orientation budgétaire, les grandes lignes étant identiques.
Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Monsieur Deripin ? Oui ?
J'ai du mal à comprendre la différence entre ce que nous avons voté pour le boulevard de la plage, c'est-à-dire 5,4 millions, et les 6,350 millions qui sont inscrits. Il doit y avoir une explication, certainement.
Oui, monsieur Lejean va vous la dire. Je pense que c'est les réseaux.
Pardon ?
Je pense qu'il y a une partie des réseaux qui ont intégré dans certains chiffres et qui ne le sont pas dans d'autres.
Et donc, en ce qui concerne l'AP numéro 1, on avait voté 1 344 et on est sur une AP qui est d'1 714. Donc là aussi, il doit y avoir une explication.
Monsieur Lejean ?
Première des choses, c'est que c'est du TTC. Deuxième chose...
Oui, excusez-moi, monsieur Lejean, mais les 5,4 millions, c'est du TTC aussi.
D'accord. Donc, vous avez effectivement les réseaux en plus dedans, au boulevard de la plage.
Excusez-moi, monsieur Lejean, mais la dernière... j'ai aussi posé la question au dernier conseil municipal. Vous m'avez dit que c'était intégré dans les 5,4 millions.
D'accord. Okay, je vais essayer de vous réexpliquer. On a voté 4,5 millions pour le boulevard de la plage. On est bien d'accord, en hors-taxe. Donc, ce qui fait en TTC, quelque chose dedans, il n'y avait pas les réseaux qu'on a votés la semaine dernière, il y a 15 jours, pour 700 000 euros. D'accord ? Et en plus, il y a la brèche ouest. On avait détaillé. D'accord ?
Quand je vous ai posé la question concernant les réseaux, pour lesquels on a voté en effet la semaine dernière, vous m'avez répondu, c'est intégré.
Et oui, et ben je vous dis que j'ai fait une erreur quand je vous ai dit ça la semaine, il y a 15 jours.
D'accord.
Et je m'en suis aperçu après.
D'accord.
Excusez-moi.
Il y a d'autres,
mais c'est toujours les mêmes chiffres.
D'autres questions ?
Et en ce qui concerne l'AP numéro 1 ?
Alors, écoutez, sur l'AP numéro 1, moi j'ai toujours 1,7 million en TTC qui a été voté. Derrière, on était bien avec le boulevard de la Poste et on est bien sur les travaux Nord-Église.
Oui, on est d'accord.
Et on est toujours en TTC.
On est d'accord, en TTC, on a voté 1 344.
Non, pour moi, c'est du hors-taxe.
Ah non, c'est 1 344 et 2 300 000 si on avait intégré... Pour aller jusqu'à Pendron.
Tout
on avait
fait.
1 million... Mais c'est... Monsieur Lejean, c'est sûr, j'ai repris le montant TTC.
Écoutez, là, je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas la réponse à votre question, je vais aller rechercher, mais pour moi, je maintiens ce que j'ai dit. À moins que Jean-Luc ou Gérard.
Par cœur, non. Je peux reprendre dans le DOB. Hein.
Non, le DOB, c'est bon.
Non, c'est bon.
Non, il y a la même.
C'est pour ça que ça me surprend un petit peu. Parce
non,
que
non,
le
non,
DOB,
je suis d'accord. Monsieur
Lejean apportera l'information à M. de Ripper dans la semaine.
Avec plaisir.
Voilà.
C'était, comme je l'ai dit, une question pour m'éclairer. C'était
tout à fait,
pas polémique, monsieur.
Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on vous apportera la réponse dans la semaine. C'était polémique ce que je viens de dire. Quand je demande à Pascal de vous donner la réponse dans la semaine, vous trouvez ça polémique. Bon. Bien, monsieur de Ripper. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ces autorisations de programme ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Parfait. Restez positif. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Monsieur Lejean, très rapidement, le rapport d'activité 2017 de l'Office du Tourisme.
Alors le rapport d'activité de l'Office du Tourisme, vous avez tous reçu un petit document dans votre enveloppe. Vous avez retrouvé un autre document qui était en face de vous. Je ne vais pas faire le rapport, puisque, si vous voulez, il a été présenté au CODIR de l'Office du Tourisme, il a été présenté à la Commission Vie Association Tourisme. Madame Baguin, on a fait le point. Donc, pour gagner du temps, je me suis dit, comme tout le monde est dans l'ensemble des associations, ça a évité de reprendre l'ensemble, puisque Monsieur Nicolas Maisonneuve vous a fait le détail de l'ensemble. Alors, on est bien d'accord, c'est le rapport d'activité, parce que tant qu'on y est, c'est les comptes financiers, c'est le plan d'action 2018, vous avez tout eu. D'accord. Sur les subventions, qui est le point numéro 13, effectivement, ça, on peut en discuter. Donc, je vous demande de voter pour le point numéro 10, 11 et 12, qui correspond à l'Office du tourisme. On ne vote pas sur le 10, d'accord. Rapport d'activité, on ne vote pas. Les comptes... D'accord. Donc, le budget, vous avez les comptes financiers de 2017 en synthèse dans le rapport que vous avez reçu. Donc, total des dépenses pour 921 202,64 € en investissement pour 39 291,74 €. Le total des recettes pour 924 448,97 €. En investissement pour 38 087,48 €. Donc un résultat d'exercice de 3 246,33 € en section fonctionnement et un déficit en section d'investissement de 1 204,26 €. Report des résultats de clôture au 31-12-2016 en fonctionnement plus 50 339,58 €. En investissement moins 30,61 €, ce qui nous fait un total de, en fonctionnement de 53 585,91 €. En investissement, un déficit de 1 234,87 €, ce qui nous fait un résultat global de 52 351,04 €. Merci, David. Qui c'est qui vote contre?
Avez-vous des questions? Pardon. Je peux faire une petite remarque.
Excusez-moi.
Puisqu'on est sur le compte financier, hein, c'est bien ça, monsieur Jean. C'est le numéro 11, hein, c'est ça?
Oui.
Sur lequel on va voter. Donc, je veux simplement faire la remarque sur les charges à caractère général qui ont dérapé quand même de 13%.
Merci. Alors, on passe au vote pour ce compte financier 2017. Est-ce qu'il y est, puisqu'on a pris, je considère qu'on a pris acte du rapport d'activité 2017, donc on passe au vote sur le compte financier 2017. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstentions, et donc le reste, c'est des votes favorables. Je vous remercie. On passe au plan d'action 2018.
Donc le plan d'action, il est dans, pareil qu'effectivement le rapport d'activité, hein, vous l'avez avec vous, il a été débattu, les explications pour le dérapage de certains comptes ont été expliquées largement le pourquoi du comment. Voilà, effectivement on fait des choses en plus, donc il y a des dépenses avec, ce qui est logique. Donc sur le plan d'action 2018, je ne vais pas débattre, je vous laisserai prendre soin pour ceux qui n'ont pas pris soin du plan d'action, mais qui ont dû le voir. Donc il n'y a pas de vote. Je vais passer au point numéro 13, donc les subventions de l'Office du tourisme. Donc je vous rappelle un peu le mode de fonctionnement de l'Office du tourisme, c'est un EPIC. Donc à partir de là, il reçoit effectivement la taxe de séjour. Cette taxe de séjour est versée tout au long de l'année. Et donc il y a un virement qui est fait en avance par le biais de la mairie, cette année par trimestre, au lieu d'être mensuel, pour simplifier les procédures, sur une base... d'une taxe de séjour primitif. Pour information, l'année dernière, la taxe de séjour réelle était de 527 000 euros contre 504 000 l'année d'avant. Et nous sommes partis sur un prévisionnel à 510 000 euros. Vous avez une subvention spécifique à titre des organisations de l'animation pour 2018 de 35 000 euros qui est identique à 2017 et à 2016. Une subvention de fonctionnement pour un montant maximum de 21 000 euros. Une subvention d'un montant maximum de 25 000 euros conditionnée au résultat de la taxe de séjour. Les deux dernières subventions, depuis 3 ans, n'ont pas été demandées. Avez-vous des questions?
Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Vote pour. Le rapport est adopté. Je vous en remercie. Toujours Monsieur Lejean, cette fois-ci sur le budget 2018.
Alors, le budget 2018, vous l'avez aussi, on l'a débattu, on l'a vu en CODIR et dans les différentes choses, dans les différentes commissions, pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, le but, il sera en conséquence proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver les budgets primitifs et supplémentaires exercice 2018 de l'Office du tourisme. Est-ce que vous avez des questions ?
Même remarque que pour le compte administratif, les charges à caractère général dérapent de 11%.
Même réponse. Il y a des nouvelles choses donc, qui ont des coûts et automatiquement, il faut les payer et les inscrire au budget. Je vous rappelle pour information que l'Office du tourisme de Carnac est un office du tourisme qui aujourd'hui est à l'équilibre rien qu'avec le virement de la taxe de séjour. Et c'est le seul office du tourisme du Morbihan. Je vous rappelle qu'il a été fait des travaux sur l'Office du tourisme, sur les locaux, que ce soit au bourg ou à la plage, puisque nous allons bientôt, ils ont été réintégrés ces derniers temps et nous allons l'inaugurer dans quelques semaines, et que donc ces rénovations ont aussi eu un coût, et que l'Office du tourisme, dans son budget, paye une redevance à la mairie.
On ne peut pas être à l'équilibre uniquement avec la taxe de séjour. Vous avez une taxe de séjour qui est de 510 000 et des dépenses qui sont de 600 000 hors billetterie.
Non mais il y a des adhésions, il y a des partenariats avec M. De Ripper. Le budget global, il s'approche d'un million.
Ouais.
On est bien d'accord. Donc on a bien vu qu'il y avait 50 000 euros d'excédent.
900 000.
Bon, oui, hein, si vous voulez.
M. De Ripper, il lui arrive de dire des choses inexactes, c'est rare, mais en l'occurrence, il a dit quelque chose d'inexact. Par ailleurs, je pense que le tourisme, c'est vraiment pas une charge ni un coût pour la commune. Hein. Je pense que c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Et si la commune de Carnac, depuis de très nombreuses années, bien avant cette municipalité, a des finances relativement saines, c'est en grande partie grâce au tourisme. Et c'est aussi ce qui fait vivre un grand nombre de commerces, d'artisans. Donc je n'ai jamais considéré le tourisme ou le budget de l'office, et je pense qu'il est très bien géré comme le reste de la commune, plutôt comme une opportunité plutôt qu'un coût. Et donc je pense qu'il s'agit plutôt de le développer. Et comme on l'a fait au cours des dernières années, on l'a vu avec la taxe de séjour. Et je pense qu'il est plutôt bien, voire très bien géré depuis de nombreuses années, et bien avant, y compris cette municipalité d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des votes contre ce budget primitif 2018 de l'Office du tourisme ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Deux abstentions. Vote pour. Le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe à une autre subvention, puisqu'on a traité celle de l'Office du tourisme il y a quelques minutes, celle du CCAS pour 2018, Monsieur Lejean.
Tout à fait. Donc, nous proposons pour la subvention 2018 pour le CCAS une subvention de 141 500 euros en fonctionnement et de 13 500 euros pour les subventions pour les repas des aînés et les animations.
Ça fait quand même une hausse de 25% de la subvention.
Vous avez tout à fait raison, M. De Ripper, qui s'explique sur deux choses. On a mis en place la même chose que je vous ai expliqué pour l'Office du tourisme et ce qu'on met en place un peu partout dans toutes les différentes choses, c'est que le CCAS aujourd'hui occupe des bâtiments de la commune et aussi utilise les services de la commune. Et à partir de 2018, ceux-ci sont facturés par la commune au CCAS puisque c'est un budget annexe. Et en plus, ils ont besoin d'une subvention exceptionnelle cette année, puisque, et je pense que Sylvie pourra en parler, excusez-moi. Voilà, tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus révélateur. L'entretien du bois qui appartient au CCAS sur la Trinité-sur-Mer.
Donc, je vous réponds, monsieur Lejean, le différentiel de subvention est de 30 500 euros. Les charges nouvelles, elles sont de 10 500. Donc, il reste quand même un net différentiel entre les deux.
Ah, vous avez...
Pascal, monsieur De Ripper, je sais que ça vous ferait particulièrement plaisir si tout dérapait dans cette commune. Je constate que vous nous l'aviez promis il y a 4 ans. Rien ne dérape. Les ratios sont très bons. On fait très attention. Le CCAS, c'est pas non plus... c'est un organisme qui a une fonction essentiellement sociale et que je suis assez fier que la commune participe par son budget général à une subvention. Et je peux vous dire que là-bas, comme à l'Office du tourisme, un euro, c'est un euro. Et contrairement à ce que vous pouvez espérer ou laisser penser, il n'y a pas de dérapage, il n'y en aura jamais. De temps en temps, et si vous avez regardé la subvention, la façon dont elle a évolué dans le temps, elle était plus élevée certaines années, elle a baissé. C'est en fonction des besoins, en fonction d'un certain nombre de projets. Et donc, je vous rassure, il n'y aura pas de dérapage, en tout cas pas sous cette municipalité.
25% pour moi, c'est un dérapage.
Il y a d'autres questions sur cette subvention du CCAS? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? D'abstention? Merci. Le reste sont des votes pour. Je vous remercie. Le rapport est adopté. On passe aux subventions, cette fois-ci aux associations communales. C'est Madame Nadine Rouet qui s'en occupe. On a dit qu'on ne les lisait pas intégralement, ou si tu les lis intégralement?
Non,
d'accord.
j'allais commencer mon propos en vous proposant de vous faire grâce justement de la lecture du tableau que vous avez entre les mains. Donc ce tableau est issu d'une réunion entre différentes commissions. Donc il vous est proposé donc ce soir de voter ces subventions. Bien entendu, s'il y a des questions ou des propositions ou autre chose, je suis à votre disposition.
Chaque année, avant de... Excusez-moi, Marie-François.
Oui, je
voulais
poser...
une petite précision sur le... S'il y a des membres de bureau d'une association, je vous rappelle qu'il faut qu'ils le signalent ici pour qu'on puisse retirer le vote, parce qu'on va voter globalement une fois qu'il sera entériné. Madame Agar.
Oui, je voulais demander la marque Skedanose, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que ce qui va être réalisé, ça s'appellera toujours Skedanose?
Oui, tout à fait, ça s'appellera toujours Skedanose.
Oui, parce que je pensais que c'était une marque qui avait été déposée par...
La marque initiale a été déposée par deux étudiants de l'école d'architecture de Nantes qui avaient initié le projet. Nous l'avons récupérée au sein de Paysages de Mégalith, parce que je vous rappelle que cette marque n'a jamais été la possession de la commune de Carnac. Hein, c'est l'association Paysages de Mégalith qui maintenant la gère. Et donc, pour l'instant, elle va rester dans l'association Paysages de Mégalith. Et donc, l'association, évidemment, donnera ce label à toutes les communes, puisque ce n'est pas qu'à Carnac qui se dérouleront des Skedanos, puisqu'il y a d'autres communes qui vont lancer. Le label va rester propriété de Paysages de Mégalith et donc pourrait être utilisé pour tout spectacle nocturne dans le cadre de Paysages de Mégalith, même si cette année c'est CMN qui prend l'organisation et la logistique de Skedanos 2018 dans les alignements à Carnac.
Oui, en ce qui concerne le vote, on le signale tout de suite.
Soit
à l'issue du vote.
Je crois que c'est simplement les membres de bureau, hein, c'est ça? On est d'accord. Si vous êtes simplement membre sans être au bureau, c'est. Je crois que c'est Florissons Ensemble, c'est ça? Vous êtes membre du bureau? C'est la seule? Ok. Madame Bagar?
Oui, à Ilertissen.
Ilertissen, d'accord. Est-ce qu'il y a Patrick? Massima.
Mes amis du musée, moi je fais partie.
D'accord. Non, mais pas au bureau.
Ah non, pas au bureau.
Je viens de dire que les membres du bureau.
Ah, mais j'ai pas écouté.
C'est pas bien, Madame Thomas, de pas écouter.
Non, mais j'étais avec le monsieur qui me...
Ça, c'est fait. Madame... Pour une fois que c'est pas moi.
Madame Thomas, un peu d'attention, s'il vous plaît. Ok. Bon, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition de subvention d'association? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au Yacht Club et la convention de partenariat et un certain nombre de subventions également.
Tout à fait. Donc le Yacht Club de Carnac, comme on dépasse un certain montant, donc on a une convention de partenariat dans laquelle on participe aux différentes régates que fait le Yacht Club, qui depuis 2014, je vous rappelle, ont été listées, puisqu'avant on votait un budget global, et que depuis 2015, on a listé effectivement les manifestations que le Yacht Club faisait. Donc vous avez le ROCAT, le RED des Mégalithes, alors ça peut évoluer en fonction des années, hein, le Critérium National VETA, l'Européenne RS, l'Européenne Javelin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Javeline peut-être, France Fireball, les autres courses, donc il n'y en a pas, le Mondial Fireball, le Trophée Brest-Skiff, donc on a les jeunes sportifs de haut niveau et on a l'école de sport.
y a des questions sur cette convention et ces subventions au titre d'une convention pour les yacht clubs ? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport d'activité et aux comptes annuels du tennis club de Beaumère, là aussi de manière très synthétique.
Donc sur le rapport d'activité, je ne vais pas revenir, vous avez eu tout le document qui vous était fourni dans les différents documents que vous avez reçus. Donc je rappelle tout simplement que nous avons signé un contrat d'affermage avec M. Christophe Cointe, gérant de la société SARL Notice, pour l'exploitation du tennis club de Beaumère. Et donc, il s'agira pour le conseil municipal d'approuver le rapport annuel de l'exercice 2016-2017.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Monsieur de Ripin.
Oui, dans le rapport, je lis qu'on envisage un rapprochement probable avec le club de la raquette carnacoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est effectivement un projet, mais qui est l'arlésienne, puisqu'il existe depuis de nombreuses années. Mais effectivement, il y a toujours des discussions et c'est une des possibilités. Monsieur Lejean.
Oui, juste donc, il y a eu aujourd'hui effectivement une question qui s'est posée sur cette activité sportive. Comme beaucoup d'activités sportives, il y a des hauts et des bas. On est peut-être dans des années un peu moins fastes qu'a connu le tennis. Et effectivement, c'était de savoir s'il n'y avait pas moyen, mais je pense qu'on va en discuter un petit peu après, s'il n'y avait pas moyen de trouver des synergies entre les deux clubs pour effectivement faire profiter à l'ensemble des Carnacois des infrastructures.
Bon, c'est vrai que l'un des deux tennis est associatif et c'est, on le sait beaucoup et je salue le président qui est parmi nous, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps passé, et c'est vrai que parfois, c'est difficile de trouver la relève pour prendre des tâches qui sont assez ingrates. Donc voilà, c'est une des possibilités, plutôt que de laisser le club, je dirais, sans président, ce qui n'arrivera pas, parce que, évidemment, le président actuel passera le relais dans les meilleures conditions, mais voilà, on est obligé quand même pour assurer la pérennité du club, de regarder s'il n'y a pas d'autres modes de gestion, si le mode associatif n'est pas pérenne. Donc je vous propose donc d'approuver ce rapport d'activité, les comptes annuels 2016-2017 du tennis club de Beaumère. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie.
On
reste raquette en main, monsieur Lejean, donc c'est la délégation de services publics cette fois-ci, avec un avenant.
Tout à fait. Donc juste un petit rappel, je vous ai dit que tout à l'heure, monsieur Christophe Cointre, donc à l'affermage depuis 2014, il faut rappeler qu'avant, il y avait une activité chez d'autres personnes qui géraient le tennis club de Beaumère, avec... peut-être des choses bien et d'autres moins bien. Donc, M. Cointe a repris ça en 2014. À l'époque, il a été négocié en 2013, donc avant la reprise, avec l'ancienne municipalité, une rénovation de plusieurs cours. Il a été fait un accord entre, effectivement, M. Cointe et la municipalité en place que les cours... si je ne vous dis pas de bêtises, 4, 5, 6, 8 et le central soient rénovés et pris en charge par M. Cointe, alors que dans la convention d'affermage, c'est à la charge du propriétaire. Donc M. Cointe a pris en charge cette rénovation qui a eu, donc vous pouvez le lire, pour 128 890 € TTC et a bénéficié d'un abaissement effectivement des loyers qui était de 18 850 € qui était prévu à 1 000 €. Et ceci sur le temps de l'affermage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu une réunion hier pour anticiper la future DSP et la prévoir. À la demande de M. Cointe, il y a besoin de refaire le cours 7 et 9. Donc là, je vous rappelle, c'est à la charge du propriétaire, donc de la mairie. Et nous a demandé de la création pour relancer l'activité tennistique, si je ne dis pas de bêtises, de créer deux paddles qui n'ont rien à voir avec ceux qui vont sur l'eau. Donc on a montré ce que c'était. C'est, pour faire très court, c'est entre le squash et le tennis. Donc là, il y a un investissement. M. Cointe nous a demandé de pouvoir réaliser cet investissement. Donc ce qui a été fait, nous avons fait un petit tableau de calcul qu'on a présenté hier sur le coût effectivement de la rénovation, enfin, de la création de ces deux paddles et de pouvoir effectivement trouver un équilibre financier pour les deux prochaines années qui sont la fin de l'affermage. Puisque il était prévu dans le premier contrat qui a été fait d'affermage entre la municipalité de l'époque et M. Cointe qu'au bout de 6 ans, le loyer, s'il remportait la nouvelle DSP, le loyer revenait au montant de départ. Donc aujourd'hui, les investissements, donc il y a un petit tableau qui vous a été mis, alors il y a, de ma faute, quelques erreurs dans les chiffres. Ça, les tableaux Excel. Sur le genre, donc ce que j'ai présenté hier, ils étaient très bien, il n'y a aucun problème. Dans ce qui, vous regardez ce qui est écrit, je suppose que M. Duripper a peut-être dû faire la remarquer, non ? Il y a quelques petites erreurs. Ce n'est pas grave, je vais vous les donner, vous allez voir, ça ne va pas très loin. Ah bah
mince ! C'est Pascal qui donne les erreurs et pas M. Duripper.
Ah non, mais Mme Bagarre l'a eu hier. Je pensais qu'elle a vu. Non, lui, tu l'as vu, elle ne t'a pas noté ? Ah bon, alors vous voyez, 2 erreurs. Il est temps que je parte en vacances. Hein. Vous voyez, je fatigue. Hein. Ça, c'est l'âge.
De toute façon, c'est après ce conseil municipal, M. Lejean entre en hibernation pendant au moins 2-3 semaines, là, parce que ça fait 3 mois qu'il était sur la balle. Et il commence à fatiguer, effectivement.
Alors, le petit tableau qui s'affiche à l'écran, chic, tout le monde va pouvoir bénéficier pour éviter de dire des bêtises. J'ai même tout mis commentaires et ainsi de suite, comme ça, vous aurez tout. Donc, vous avez ici, effectivement, le cours 7 et 9, donc, qui sont le coût de réfection. Vous avez, hop, excusez-moi. Vous avez le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC, travaux de renouvellement, pas de révision de loyer prévue dans la convention, le FCTVA, parce que je vous rappelle que la collectivité ne récupère pas la TVA, mais nous avons le FCTVA une année de décalé, qui correspond à 16,404 le taux, donc qui n'est pas exactement le même montant que la TVA. L'État a travaillé, donc il a pris sa quote-part. Excusez-moi, le juréti, il fallait bien que je vous taquine un petit peu. Ce qui nous fait un sous-total de 38 119,78 €. Pas de subvention, on est bien d'accord. Donc on a regardé comment amortir, ce que ça coûtait sur 10 ans ou 12 ans, même si là, il n'y a pas d'intervention à ce niveau-là. On a fait la même chose, parce qu'on a dissocié le tableau avec les deux paddles. Donc pour un investissement de 79 000 €, j'arrondis, hein. 79 000 € hors taxes, des montants d'enfouissement de réseau, une TVA pour 17 478 €, ce qui nous fait un total TTC de 104 868 €, un FCTVA de 17 202,55 €, excusez-moi, un sous-total qui fait 87 665,45 €, une subvention Fédération Française de Tennis, c'est une option avec un maximum potentiel de 7 000 €. On verra un peu plus bas, j'en parlerai, donc je n'ai pas mis dedans puisque ce n'est pas gagné. Donc ce qui nous, on est parti sur la base la plus pessimiste pour 87 665,45 €. Sur une base de savoir l'amortissement sur 10 ans et 12 ans, après discussion sur des nouveaux produits, on ne connaît pas la rentabilité, donc on est parti sur un coût sur 7 ans, donc qui est de 7 305,45 € et non 7 087,92 €, ce qui est écrit. Oui, tout à fait. Bah, c'est des petites erreurs. Et ce qui ferait que pour le loyer pour 2018-2019, on a une base de 1 000 € qui était la base de départ, qui est revue par l'INSEE, qui n'est plus aujourd'hui de 1 000 €, mais de 1 049,45 €. Plus nos 7 305,45 €, ce qui nous arriverait à 8 300 et un peu plus, puisque effectivement, je n'ai pas tenu compte des 49 € à rajouter et des 45 € dessus pour les années 2018-2019. Et ce qui nous ramènerait sur une base de départ pour l'affermage de 2020, c'est pas 2019, c'est 2020, de 18 850 €, qui était la base, donc qui sera réactualisée, plus effectivement les 7 305,45 €, puisque là on ne parle plus des 1 049,45 €, puisqu'ils sont dans les 18 000 €, ce qui fera un total de 26 155,45 €. Ce qui nous permet effectivement d'envisager l'investissement sereinement, puisque si vous voulez, au bout de 5 ans, un peu plus de 5 ans, nous avons financé l'investissement que nous avons fait. Et dans le pire des cas, même si cet investissement ne remporte pas le succès escompté et que nous devions revenir, puisque c'était la question qui a été posée hier et qui était d'ailleurs très bonne question, de revenir sur la base des 18 000 euros, de toute façon, nous autofinançons toujours cet investissement-là. Ça vous a paru clair, ma démonstration
Oui.
Je suis désolé pour les chiffres qu'on vous a mis.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça clair? Non, c'était clair. Monsieur Daripper, une question peut-être?
Oui, concernant la durée d'amortissement. Donc c'est un investissement de la commune, de la municipalité.
Tout à fait.
On n'est pas dans l'obligation de respecter le... C'est un aménagement de terrain, en fait.
Tout à fait.
L'aménagement de terrain, c'est 30 ans, normalement.
Alors, si vous voulez, c'est toute la problématique de ce genre d'investissement où on se limite dans une problématique terrain ou d'équipement. Alors, effectivement, on en a deux. Donc, si on le met, effectivement, dans la logique terrain, aménagement comme un bâtiment, alors déjà, ce n'est pas un amortissement, hein, parce que je vous rappelle qu'on n'amortit pas les bâtiments dans la compta publique. C'est le mode de calcul que j'ai pris suite au CLEC touriste que j'avais vu avec ACTA, où KPMG nous proposait, c'est pas un amortissement, mais une durée d'entretien du bâtiment de 30 ans. Donc j'avais repris ce qui était, parce que je ne trouvais pas ça complètement idiot, et au moins ça permettait d'avoir une base. Donc effectivement, là, on serait sur une base de 30 ans, ou effectivement, on est sur une base d'un matériel, puisque là, on est à mi-chemin entre l'infrastructure terrain, qu'effectivement, il y a certaines choses qui vont être terrain, qui vont rester dans le temps, mais vous avez quand même d'autres choses qui vont, elles, vieillir plus rapidement. Entre autres, dessus, on a un tapis style mousse, un peu comme on a, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais style mousse, un peu comme sur les jeux d'enfants, qui est amorti, hein, derrière, qui est, ça se rénove plus rapidement.
D'où... Jusqu'ici, les équipements dans lesquels on avait investi sur le tennis de Beaumère, ils étaient amortis sur 30 ans.
Vous voyez ce que c'est qu'un padel, monsieur de Ripper? En fait, il y a des vitres, il y a des... Alors qu'un court de tennis, bon voilà, c'est à part le remettre là. Normalement, quand il est bien entretenu, hein, surtout en terre battue, il suffit de le réalimenter en terre et de le... Voilà.
Ouais. C'est vrai, les vrais courts de tennis en terre battue ont ce qu'on appelle des fondations, parce qu'il y a des fous qui vont jusqu'à 70 cm. Et là, on peut considérer que c'est ni la terre de padel, c'est ni une construction, ni un ouvrage, en fait, au sens étymologique. Donc c'est plutôt un équipement qui est posé et qui ne nécessite pas de fixation à demeure au sol, ni de fondation particulière.
Et je voudrais juste rajouter... Pardon.
Non, vas-y, rajoute. Je sens que je vais être frustré si tu ne rajoutes pas.
Non, quand on parle de durée d'amortissement, c'est plus une durée de calcul pour le loyer.
Bon, on est tous devenus des cadors en amortissement dans la comptabilité publique. Hein, interrogation écrite au prochain conseil municipal. On va passer au vote sur cet avenant donc pour le tennis club de Beaumère à la délégation de services publics. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, le SIACT pour la dernière fois.
Voilà, donc le SIAT, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir dessus. Le SIAT, c'est le syndicat intercommunal de Carnac et l'assainissement de Carnac et la Trinité-sur-Mer, donc qui a été dissous fin 2013 pour entrer dans le giron d'ACTA. Effectivement, il y a eu un petit problème, une petite erreur technique qui a été faite à l'époque. Ce n'était pas une dissolution totale, donc ce qui a permis de laisser, enfin ce qui a fait laisser traîner le dossier. Donc, avec le préfet et ACTA, nous avions vu ensemble de trouver une solution à l'amiable entre, effectivement, la commune de la Trinité-sur-Mer, la commune de Carnac et ACTA. Donc, aujourd'hui, nous sommes au dénouement du SIAT.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Géretti, ne dites pas « Hourra !» Le rapport est adopté. On passe au rapport suivant qui concerne donc l'annulation de la libération de la promesse d'achat d'une parcelle avenue du Raïc. Monsieur Chapelle.
Bien, oui.
Nous avions, le 24 mars 2017, voté en conseil municipal l'acquisition d'une partie de la parcelle AE325 pour une surface de 2000 m² située à avenue du Rail. Je rappelle, cette parcelle correspond à l'emprise du terrain de l'espace vert qui donne sur l'avenue du Rail et qui est située au sud du plateau sportif. Nous nous étions mis d'accord, suivant l'avis des domaines, moyennant un montant déterminé qui a été entériné. Il reste que depuis cette décision, l'AEP et un groupe, enfin une personne privée, s'est rapprochée de l'AEP en disant « Écoutez, moi, si vous n'avez rien entériné avec la commune, je serais intéressé pour faire un projet à usage professionnel. » Donc, l'AEP, pour ne pas rentrer dans les détails de la négociation, à la limite qui ne concerne pas la mairie dans un premier temps, l'AEP Saint-Michel s'est déclaré intéressé par cette proposition, sous réserve évidemment qu'elle soit plus avantageuse pour eux que celle de la commune, ce qui était visiblement le cas, puisque l'AEP est cette... Et la personne qui pilote ce projet professionnel se sont mis d'accord sur des conditions qui arrangent l'AEP. L'AEP aurait validé cet accord sous réserve que la commune donne aussi son aval, puisque nous étions engagés avec l'AEP pour l'acquisition de la totalité de la parcelle. Nous avons donc posé une condition à ce que cette cession se fasse, donc le projet de cession entre l'AEP et la personne qui pilote le projet professionnel, sous réserve, bien entendu, que la commune puisse continuer à bénéficier du droit de passage, de la servitude de passage au plateau sportif. C'était la condition que nous avons fixée. Et donc, pour finalement arranger l'AEP, puisque c'est eux qui faisaient la demande, à partir du moment où nous, on conserve l'accès au plateau sportif, puisque c'est l'accès qu'on avait depuis lors, on vous propose donc d'entériner cette cession, enfin d'entériner l'annulation de la délibération qui portait sur l'acquisition des 2000 m² et qui donc n'aura plus lieu.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Monsieur Deripin.
On est d'accord sur le fait d'annuler la délibération, mais pas d'accord sur la phrase qui a été rajoutée, c'est-à-dire de préciser que si la vente n'aboutissait pas, la commune resterait acquéreur de 2000 m². Parce que de deux choses l'une, ou c'est un emplacement stratégique, comme on l'a dit l'année dernière, c'est la réponse qui m'a été faite, la commune n'a aucune réserve foncière et c'est essentiel pour elle d'acquérir cette parcelle. Donc dans ce cas-là, si c'est essentiel, il faut la garder. Ou alors c'est pas essentiel, et si c'est pas essentiel, je vois pas l'intérêt de la reprendre ensuite.
Alors, c'est tout simplement le principe d'une négociation immobilière.
C'est-à-dire ?
Vous avez bien compris le principe. Nous, on a décidé de ne pas... D'abord, on n'acquiert pas aux conditions que l'on ignore entre l'AEP et la personne qui pilote ce projet privé, premièrement. Donc, nous, si on acquiert, on maintient, on ne varie pas, mais on maintient toujours notre acquisition, mais aux mêmes conditions initiales. Vous auriez pu, à juste titre, faire la remarque si on avait porté notre offre à un montant supérieur, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, je rajouterai un deuxième point, c'est que le dossier EADM ayant pris une autre tournure, nous allons devoir acquérir une partie très importante de foncier avec un gros projet, effectivement, et même si je considère toujours que ce terrain était extrêmement bien placé et aurait pu servir à la commune à faire autre chose, la nature du projet qui va y être mené est quasiment d'intérêt communal. Et c'est aussi pour ça, et pour un certain nombre de raisons liées effectivement à l'évolution du dossier EADM, que nous avons accepté cette demande de l'AEP.
Je crois Pour remarquer, monsieur le maire, que c'est exactement ce que je vous ai dit l'année dernière quand on a passé cette délibération. C'est-à-dire qu'on avait avec EADM déjà une réserve foncière qui était importante et que je ne voyais pas tellement l'intérêt d'acquérir ce terrain-là. Oui, et sauf, que par ailleurs, ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'était d'acquérir la bande de terrain qui permettait d'accéder.
Alors, première chose, monsieur de Ripper, je vous confirme, vous ne dites pas que des bêtises et vous dites des choses souvent intéressantes. Hein, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Petit 2, la situation a évolué de temps en temps. Et là, en l'occurrence, le dossier EADM, on voit un petit peu mieux où on va aller parce qu'il y a un an, il aurait fallu être grand clair pour savoir si ça n'allait pas se terminer par un procès qui aurait duré probablement de très longs mois. Donc, pas de réserve foncière avant de très nombreuses années. Donc, encore une fois, on peut dire un certain nombre de choses et puis évoluer sur la position. En l'occurrence, si le dossier EADM avait continué à rester encalaminé dans une procédure juridique très longue, ça aurait été très intéressant pour la commune. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc le contexte n'est pas le même. Encore une fois, j'entends parfaitement votre remarque. Elle était déjà censée il y a un an, mais le contexte était complètement différent.
Si je peux rajouter un dernier mot, c'est une activité, quand il s'agit de créer des activités professionnelles en secteur central du bourg, je peux vous dire que moi je préfère en avoir à cet endroit-là, qui génère un flux, qui génère une activité supplémentaire, plutôt que de risquer éventuellement de voir certaines activités professionnelles ou autres se disséminer dans d'autres endroits de la commune.
On en reparlera plus tard. Est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Magard, abstention? Je vous remercie, le rapport est adopté. Monsieur Marc Albert, la transfert de gestion du port de la Cale du Pau, un endroit emblématique de notre belle commune.
Le conseil des propriétaires et des propriétaires de la Cale du Pau du Vendée,
pour des décennies, et du coup... excusez-moi. Du coup, ils ont décidé de s'en séparer parce que c'était un peu petit pour eux. Pardon. Et ils gardaient juste les grands ports du Morbihan. Donc ils se sont rapprochés de nous pour voir si on voulait la récupérer, sachant qu'ils ont fait les travaux du môle et de la cale, ils ont tout refait les joints, tout remis en bon état. Et on a une association qui s'est proposée de s'occuper, d'essayer de faire vivre un petit peu le pot. Donc on a dit qu'on était OK pour la récupérer, à condition qu'il n'y ait plus de bateaux dessus et qu'on puisse gérer comme on veut, de façon qu'il n'y ait pas des bateaux ventouses qui sont là depuis une vingtaine d'années et qui ne bougent pas, et qui depuis ce temps-là n'ont jamais payé aucun titre ou quoi que ce soit. Donc... On s'est mis d'accord avec l'association et la commune va le récupérer, donner la gestion à l'association qui fera justement des animations au pot, on l'espère. Dans cette association, il y a un ostréiculteur, il y a un restaurateur, il y a des gens qui habitent là depuis 20-30 ans dans le pot. Ils veulent justement faire bouger un petit peu et faire des animations. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré cette cale. Enfin, si vous êtes d'accord et que vous votez pour.
Parfait. Pour moi, c'est toujours le schéma idéal, hein, que ce soit pour les chapelles ou que ce soit les ports. Quand on a des habitants et des gens qui vivent sur place, tu peux l'éteindre comme ça. Qui vivent sur place, qui gèrent un bien avec le soutien de la municipalité. Pour la municipalité, c'est toujours la solution vraiment idéale. Hein. On le voit pour les chapelles. Si nos chapelles sont bien entretenues, c'est parce qu'il y a des associations qui s'en occupent. Port Andros, c'est pareil, le port est bien géré par une association. Et là, en l'occurrence, on a eu vraiment des habitants qui sont venus nous voir avec un projet extrêmement bien ficelé et puis une vraie ambition en termes de gestion à la fois des mouillages mais également de l'environnement, puisque ça va un petit peu au-delà de la cale, c'est un peu une association de quartier. Et à titre personnel, je reste persuadé que c'est un endroit aujourd'hui qui n'est pas assez valorisé, le pot. Hein. Je pense que je rêve d'un Grenelle du Pau avec les ostréiculteurs, les habitants, et c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec cette association, parce que tout le monde, on voit beaucoup dans les magazines des photos de la baie d'Arcachon avec les gens qui mangent des huîtres sur des belles tables en bois sous les pins. Je pense qu'au Pau, on aurait, ça se fait déjà bien évidemment, hein, mais si on investissait, si la commune arrivait à monter une dynamique de l'ensemble des habitants et des professionnels, on pourrait vraiment avoir un endroit sublime où on pourrait, ce que j'aime beaucoup personnellement, boire mon petit verre de vin blanc avec quelques huîtres. Et là, il y a un potentiel absolument incroyable. On a commencé l'année dernière par un grand nettoyage de l'Anse du Pau. Hein. On a récupéré des choses absolument hallucinantes dans l'Anse du Pau. Nettoyage qui avait été initié par l'association Les Mains dans le Sable. Et on a fait intervenir les services parce qu'il y avait quasiment des carcasses de voitures sous le... Enfin, incroyable. Et donc, on va poursuivre ça. Et avec, grâce à cette association, j'espère qu'on pourra vraiment valoriser avec les ostréiculteurs, avec les habitants, le pot. Vous avez vu qu'il y a des travaux assez importants qui sont menés en ce moment par les neveux d'une très vieille famille d'ostréiculteurs carnacois. Quelque chose d'assez vraiment incroyable. Je vous invite à aller regarder le chantier parce que ça va être un lieu emblématique. Ils ont vraiment un projet splendide. Je les laisserai le présenter, mais... voilà, c'est un lieu qui a vraiment du potentiel, et quand on a une association comme ça et des habitants qui prennent en main leur destin, je crois que la mairie est là pour les soutenir, et c'est vraiment le meilleur schéma. Est-ce qu'il y a des questions sur ce transfert de gestion? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe très rapidement sur le point 23, sur les schémas de mutualisation. Vous savez que la création des intercommunalités, pardon, et puis les obligations réglementaires, donc, mais bien évidemment, au-delà des obligations réglementaires, l'intérêt à le faire, puisque la promesse de l'intercommunalité, c'est évidemment la mutualisation. Eh bien, les obligations réglementaires donc, font que notre intercommunalité a présenté, et il a été d'ailleurs voté le 15 décembre dernier en Conseil communautaire, un rapport de mutualisation de la communauté de communes qui donc propose, au terme d'un certain nombre d'enjeux, ils sont listés sur cette page, 5 enjeux majeurs, eh bien, de travailler et de favoriser le travail en commun, que ce soit intellectuel, mais également des moyens comme les matériels et notamment aussi évidemment les agents des communes, puisqu'il y a des compétences dans certaines communes qui n'existent pas dans d'autres, et donc ce schéma de mutualisation est destiné effectivement à faciliter le travail entre les communes, éventuellement aussi, mais il faudra probablement attendre quelques temps, de faire des économies, hein, notamment via le développement des groupements de commandes ou la gestion des matériels techniques. Toute commune n'a pas vocation à avoir un gros tracteur. On peut mutualiser un certain nombre de choses, mais on n'a pas attendu ce rapport de mutualisation pour le faire, hein, puisque la commune de Carnac prête des matériels assez souvent à la commune de la Trinité ou à Plouarnel, et qu'on mutualise également la gestion des plages. Et donc, cette initiative est évidemment complètement intéressante, même si elle est aujourd'hui totalement embryonnaire. Il va falloir la faire vivre, et ça, ce sera le rôle des différents maires. Je crois beaucoup à la coopération, en particulier avec les communes évidemment limitrophes de Carnac. Hein, on ne va pas aller prêter un tracteur à Camors ou à Pluvigné, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'émettre un avis favorable au rapport de mutualisation de la communauté de communes, et puis eh bien, de commencer à travailler pour au-delà, je dirais, voilà, des implications réglementaires et des compétences qu'on transfère à l'intercommunalité ou qu'on ne transfère pas d'ailleurs, eh bien, à commencer à travailler avec l'ensemble des communes d'ACTA pour essayer de dégager des mutualisations, et notamment des mutualisations d'effectifs, intellectuels, mais également financières, puisque les groupements d'achat, c'est quelque chose de très facile à mettre en place quand on a plusieurs communes qui participent, et ça permet d'avoir une puissance d'achat évidemment très supérieure à une commune seule, et donc avoir des gains importants financiers. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma de mutualisation?
Non, je voudrais juste faire une petite remarque. Bon, évidemment, pour la mutualisation, mais je pense que ça évitera à l'avenir peut-être de louer des camionnettes pour aménager les abords de l'office de tourisme. Hier, j'ai été surprise de voir qu'un camion avait été loué location Renault.
Ça m'a
étonné.
Je peux parler?
Oui.
Je vais vous répondre.
Oui.
C'est pas un camion Renault qui a été loué. C'est qu'on a commandé un nouveau camion plateau chez Renault. Ils nous l'ont pas livré à la date prévue. On leur a demandé qu'ils nous en prêtent un, puisqu'on en avait besoin. Donc, c'est prêté gratuitement par Renault. Donc, à aucun moment, on a payé quoi que ce soit. C'est qu'on avait besoin de matériel qu'on avait commandé. Comme il a du retard, ils nous en ont prêté un gratuitement, un qu'ils louaient d'habitude. D'accord. Donc, on n'a rien payé. C'est gratuit. C'est offert par Renault.
Le diable se loge dans les détails.
Voilà.
Oui, mais parce que ça donc, m'a surpris. J'ai dit voilà. Ça.
Vous avez la réponse. Donc, il n'y a pas de souci, ni crainte. On n'a rien loué. Merci.
Eh bien, merci.
Parfait. D'autres questions sur le... Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ce schéma de mutualisation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Un rapport un petit peu similaire, là aussi on va passer très rapidement, hein, c'est l'approbation des tarifs de mise à disposition humains et matériels à l'échelle du territoire communautaire. C'est la conséquence du rapport que nous devons voter, et vous découvrez un petit tableau avec les tarifs qui ont été décidés par l'intercommunalité dans le cadre de prêts, de matériel ou d'agents. Vous avez vu que c'est assez détaillé, puisqu'on part de 18 euros TTC par heure et par agent d'entretien ménager, jusqu'à 54 euros pour un tractopelle avec chauffeur. Ça permet évidemment de fluidifier les échanges entre les communes. Ça évite les longues tractations avant de transférer du matériel. Et ça permet surtout aussi, j'imagine, d'émettre des mandats entre communes à des tarifs qui sont décidés au préalable. Et il en faut. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs harmonisés ? Pas de questions ? Je vous rappelle que vous ne pouvez pas louer un tractopelle avec chauffeur, c'est réservé aux communes, pas aux particuliers. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, on commence un marathon scolaire. Allez, je vous laisse 10 minutes.
7.
Ça vous va ?
Bon, je pense que je vais faire moins. Ouais. Alors, bordereau numéro 25, participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, donc en l'occurrence l'école Saint-Michel de Carnac. Je vous fais grâce des modalités de calcul qui vous sont explicitées sur le bordereau. Et donc, ce serait pour un montant total de 172 269 euros et 40 centimes.
Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Taripin.
Justement, sur les modalités de calcul, je pense qu'il y a une petite erreur. Parce que vous divisez les dépenses réalisées en 2017 par les effectifs de 2018.
Oui, c'est toujours ce mode de calcul qui...
Non, c'était pas le mode de calcul précédent.
Non, c'est habituellement la façon de procéder. C'est toujours les effectifs
au
début d'année.
Vous avez les effectifs de 2017. Pourquoi est-ce que vous ne divisez pas le montant des dépenses par les effectifs 2017, pourquoi est-ce que vous les divisez par les effectifs de l'année suivante ?
Nous, on reproduit en fait ce qui nous est indiqué par l'État, c'est-à-dire que c'est un mode de calcul, je dirais, qui nous est imposé en fait.
Ça pose un problème ?
Non, mais je pense, M. Oudoua, quand même vérifier, parce que le calcul n'était pas le même l'année dernière.
Bah, écoutez, on va vérifier.
Vérifier le nombre d'élèves qui a été utilisé
l'année précédente. D'accord.
Ouais, je pense qu'il y a une petite erreur.
Et donc, sans polémique, apporter la réponse à M. De Ripper cette semaine.
Et ensuite, je voudrais attirer votre attention sur l'aberration du système. Puisque en fait, moins il y a d'élèves dans le public,
oui, on a remarqué, hein.
et plus le privé nous coûte cher.
C'est l'absurdité de la chose, mais elle est relevée au sein de ce conseil depuis des années, puisque c'est une chose qui est assez étrange et assez absurde. On est d'accord. Malheureusement, c'est pas moi, comme la M14, c'est pas moi qui l'a fait pour les problèmes tout à l'heure d'héritage car zéro et compagnie. Là, c'est exactement pareil. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est absurde. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois ? Ah, pardon, Charles. D'accord. Donc, il y en aura quelques-uns, je crois, dans la foulée, Charles. Loïc ?
Alors, on passe au bordereau suivant. Donc, il s'agit des crédits scolaires pour les classes élémentaires qu'on vous propose de fixer à 75 euros par élève pour les écoles publiques et privées de Carnac. C'était autour de 74 euros l'année dernière.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? À part Charles ? Unanimité, moi, Monsieur Bietri. On passe au rapport 27.
Donc cette fois-ci, même chose, mais pour les classes maternelles. Donc là, il est proposé de passer à 55 euros. C'est une augmentation de l'ordre de 10 euros par rapport à l'année précédente. C'est suite à des demandes conjointes des deux directrices d'établissements, publics et privés, qui nous précisaient que les frais en maternelle augmentaient davantage. L'éducation nationale préconisant davantage une éducation pédagogique par le jeu et que les jeux coûtent un petit peu plus cher.
Voilà. Même vote, j'imagine, que le rapport précédent. C'est pour les enfants en plus. Donc, pas de. Une abstention, monsieur Bietri, pas de vote contre. Je vous remercie. Rapport 28, monsieur. Oudoua.
Donc cette fois-ci, pas 25% d'augmentation pour la, les activités pédagogiques scolaires des écoles publiques et privées. On est resté sur les mêmes montants, à savoir 1100 euros pour les classes de maternelle et 1700 euros pour les classes élémentaires.
À part l'abstention de M. Bietri, pas de vote contre. Le rapport est adopté. Numéro 29, participation financière à l'arbre de Noël.
Donc pas d'évolution non plus pour ce bordereau-là. Donc toujours un crédit de 10 euros par enfant pour l'acquisition de livres. Et puis prise en charge du goûter, de la séance du cinéma et du transport collectif pour s'y rendre.
Parfait, pas de remarques. Unanimité moins, M. Bietri. Qui s'abstient? Rapport numéro 30.
Donc cette fois-ci, subvention pour les séances d'activités nautiques des écoles, donc publiques et privées toujours, à hauteur de 8 séances d'une journée ou 16 séances d'une demi-journée pour 3 classes dans chaque établissement. Et donc le tarif est fixé à 13 euros par demi-journée ou 26 euros la journée par élève.
Pas de questions, pas de commentaires?
Même proposition pour les activités nautiques, cette fois-ci des deux collèges, et donc là avec un tarif unique à la demi-journée, puisqu'il n'est pas possible dans les collèges de faire cette activité à la journée.
Même vote pour les rapports suivants, il est donc adopté. Je vous remercie. Rapport 32.
Alors, rapport 32, c'est une nouveauté, en fait. C'est une convention pour qu'on puisse bénéficier de subventions de la CAF pour accueillir des élèves en situation de handicap. Et donc, c'est une subvention qui est de 3 000 euros pour l'année 2017, étant entendu qu'elle ne peut pas excéder 80% du coût total du montant du renfort en personnel pour cet accueil.
Des questions? Cette fois-ci, M. Dutry va pouvoir voter. Parfait. Unanimité, je vous remercie. Rapport 33.
Donc là, c'est un autre mode de calcul pour les frais de fonctionnement, cette fois-ci des écoles extérieures. Il peut arriver que certains élèves carnacois ne puissent pas être accueillis dans les écoles carnacoises en raison, ça peut être en raison d'un handicap par exemple. Et donc on se doit de délibérer sur le montant maximum versé pour ces écoles. Et donc il est fixé à 567,67 euros pour les classes de maternelle et 453,08 euros pour les classes élémentaires.
Des commentaires? Unanimité? Je vous remercie. On passe au rapport suivant, le rapport 34, participation de frais de fonctionnement de l'école privée Notre-Dame de la Trinité-sur-Mer. Il faudra bien penser que M. Bietri va s'abstenir.
Ou voter contre.
Donc là, ça découle directement du calcul qu'on vient de voir. Et donc, c'est pour participer aux frais de fonctionnement de l'école privée Notre-Dame de la Trinité-sur-Mer. Donc, historiquement, Carnac payait pour la Trinité-sur-Mer et la Trinité payait pour Carnac. Les deux conseils municipaux se sont prononcés pour revenir sur ce système, mais pour continuer de payer pour les élèves encore scolarisés dans ces établissements. Mais c'est pour ça que le nombre d'élèves diminue d'année en année, et donc là, ça représente 567 euros, donc un élève pour les classes de maternelle, et 1359,24 euros, qui équivaut à trois élèves pour les classes élémentaires.
Des questions? Alors, suspense, M. Bietri, c'est abstention, contre? Abstention, donc. Abstention. Pour le reste, unanimité? Je vous remercie. On passe au rapport 35, subvention exceptionnelle pour le séjour à la CLUSA des écoles de l'école privée Saint-Michel. Je crois qu'ils y étaient la semaine dernière, c'est ça, non, la semaine d'avant?
Oui, effectivement. Et donc là, je vous propose de faire un... Alors, il y aura deux votes, mais faire une explication commune sur les montants, juste pour que vous compreniez davantage. Donc, en fait, les deux écoles ne partent plus chaque année à la CLUSA, mais une année sur deux ou une année sur trois en fonction des effectifs. L'école des Corrigans est partie l'année dernière et donc on avait octroyé l'année dernière une subvention de 1600 euros pour ce voyage. Cette année, donc, l'école Saint-Michel est partie à la CLUSA. Il est proposé d'attribuer donc une subvention de 2990 euros. Et pour maintenir l'équité entre les deux écoles, il est proposé d'octroyer à l'école publique une subvention de 1377 qui donc s'ajoute aux 1600 versés l'année dernière pour obtenir 2977, ce qui à 13 euros près nous donne l'équivalent de ce qui est versé à l'école Saint-Michel. Oui, parce qu'il y a davantage de, il y a davantage d'élèves à l'école Saint-Michel.
C'est pas par rapport au nombre
d'élèves,
c'est par rapport à l'école.
Oui, c'est en fonction.
Par rapport au nombre d'élèves, s'il y a plus à l'école Saint-Michel, c'est normal qu'il y ait plus. Et je ne vois pas pourquoi on donne à l'autre école. Les deux écoles doivent être équivalentes. C'est par rapport au nombre, à quoi l'enfant. C'est pas par rapport à l'école.
Mais pas le micro.
Là, là, le mode de calcul, il est global, effectivement.
Je comprends pas le calcul. Je crois qu'il y a une qui était par rapport.
Ne ranimez pas les derbies entre l'avant-garde des menhirs et le foyer laïque. Hein, parce
Non, mais moi je comprends pas que c'est pas le nombre d'élèves, c'est pas par élève, c'est tout. Donc je suis pas d'accord.
Bon, on passe au vote. Alors, il y a des votes contre. Madame Thomas.
Oui, parce que moi je veux que tout le monde ait la même chose. Je veux qu'une subvention, mais la même pour.
Je vous demande juste votre vote, Madame Thomas.
C'est tout.
Donc, vote contre, ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux abstentions. Donc le rapport est adopté.
Je voudrais juste poser une question.
Mais bien sûr.
Pourquoi les deux écoles n'y vont peut-être pas tous les ans?
C'est le choix des directeurs d'école. C'est eux qui prennent la décision. Hein. Ils ont la possibilité, mais ils ne sont pas obligés de se conformer au jumelage. En fait.
Puis pour les enseignants, c'est dur. Hein. C'est les encadrants, c'est dur. Hein. Je vois, il y a des encadrants qui. C'est vraiment très, très dur de partir avec des enfants, surtout aujourd'hui. Hein.
On passe au rapport 36, cette fois-ci, pour une subvention pour le Puy du Fou.
Oui, et donc là, c'est.
Là, c'est à l'école des Corrigans, hein, M. Bietri.
En fait, la 36, c'est celle. C'est celle qu'on vient de voir en fait en même temps que la 35.
Donc les deux sont adoptés.
Alors faisons un deuxième vote.
Donc, faisons un deuxième vote pour le rapport 36 qui concerne donc une subvention exceptionnelle pour séjour au Puy du Fou pour les élèves de l'école publique de la République des Corrigans.
D'accord.
C'est clair ?
Ben oui,
d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité ? J'ai cru qu'il allait y avoir unanimité autour de la République. Une abstention. Alors, le rapport 37, cette fois-ci, c'est pour un projet artistique, Monsieur Houdois.
Alors là aussi, deux votes, mais une explication globale. Donc la proposition est d'attribuer 2500 euros à l'école des Corrigans pour un projet artistique autour de. Pour décorer en fait le préau de l'école. Et en fait, la même somme, toujours pour ce principe d'équité, à l'école privée Saint-Michel, qui a un projet pédagogique et artistique autour du cirque. Donc 2500 euros de proposer pour chacune des écoles.
Le cirque cher à mon cœur.
Alors,
est-ce qu'il y a des...
Je voulais juste demander... l'école Saint-Michel n'avait pas eu de projet artistique, vous n'auriez rien versé?
Non, en général, on s'arrange par souci d'équité, effectivement, de susciter ou que les écoles s'arrangent pour avoir à deux de chacun un projet artistique. Voilà.
Okay.
C'est une évidence. Et donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le rapport 38 maintenant. C'est le même en fait. Hein. On va considérer cette fois-ci qu'on a. À moins que M. Bietri ne. Non. Allez, on va dire unanimité pour les deux. Le cirque. On passe au dernier rapport. Je crois qu'on en a parlé suffisamment longtemps. J'en ai également parlé pendant les vœux. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes, lors d'événements qui se sont déroulés au cours des derniers mois, du monde associatif carnacois, sont venues me voir. Il y en a un qui est parmi les spectateurs de ce conseil municipal. On a eu une discussion sur le fait qu'un certain nombre de carnacois, je dirais, historiques, étaient en train de disparaître. Hein. Je pense évidemment à monsieur Pierre Maurice qui nous a quittés, mais également à évidemment, j'oublie son nom, monsieur Le Cam, voilà. Et on se disait qu'avec eux disparaissait un petit peu une partie de la mémoire vivante de Carnac. Quand on ajoutait à cela l'évolution sociologique de la commune, où on a de plus en plus effectivement de gens qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas à Carnac, ou leur famille n'est pas à Carnac depuis plusieurs générations, bien on a une mémoire qui est en train de disparaître. Et donc ces personnes du monde associatif carnacois se sont un petit peu agrégées, et on a eu cette idée eh bien de créer un groupe de travail. Au départ, il n'y avait pas vraiment de volonté de faire une commission extra-municipale, mais le fait de lui conférer un caractère extra-municipal lui donne une certaine sonalité, hein, bien que voilà, il n'y a pas de coût pour la commune, sauf si exceptionnellement l'association avait besoin de faire des scans ou d'utiliser, d'avoir accès aux archives municipales. Et l'objectif des travaux de cette commission, hein, qui est une commission, et j'y tiens, uniquement associative. Donc si un conseiller municipal a envie d'en faire partie, qu'il se rapproche des associations qui sont concernées par cette association. J'en suis de manière officielle le président, mais pour des raisons purement administratives, hein, je ne siège pas, même si elle se réunit ici le samedi matin, et je passe souvent une tête dans la salle pour voir que ça travaille. Et donc l'objectif, c'est de réunir sous une forme pourquoi pas d'un ouvrage, eh bien, cette mémoire de la commune, à travers les documents, à travers les photos, à travers l'histoire de son patrimoine. Je sais aussi que cette commission va peut-être jouer un rôle dans la protection de Kerloquet, puisque je crois que lors de la dernière séance, il y a eu des travaux sur l'histoire de Kerloquet et la manière dont les temps s'étaient constitués et les raisons pour lesquelles il s'était constitué. Et donc, bah voilà, moi, je trouve que c'est une initiative merveilleuse. Il y a beaucoup de gens dans cette commission qui sont passionnés par Carnac, qui sont eux-mêmes une partie de la mémoire de Carnac, et sont que, voilà, si cette commission pouvait aboutir à un bel ouvrage, ça existe. Je viens de recevoir ce matin de la part d'une association également craquoise qui a écrit un petit bouquin, je ne sais pas, vous en avez entendu peut-être parler parce que ça a été évoqué dans Ouest-France, sur les craquois dans la Grande Guerre 1914-1918, et ils ont fait vraiment un travail magnifique, ils ont réussi à le publier. Et donc, si on pouvait faire quelque chose de similaire pour la commune de Carnac, ça me paraît être une très bonne chose. Donc, c'était vraiment... D'ailleurs, je remercie Jean-Claude et Madeleine, hein, qui sont les deux vice-présidents et qui sont ceux qui portent cette initiative. Vous trouverez les membres. Alors, c'est, encore une fois, ce n'est pas une commission fermée. Hein. Si certains d'entre vous, mais pas au titre du conseil municipal, veulent y participer, je vous propose de vous rapprocher de Madeleine et de Jean-Claude, qui, connaissant leur sens de l'accueil, vous accueilleront avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette initiative ? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette initiative ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, pas de questions orales. Je vous souhaite donc un bon week-end.
Voilà, c'est court.